Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Nous accueillons aujourd'hui le docteur Jean-Philippe Labrèze, médecin généraliste. Le docteur Labrèze a été en 2004 à l'origine de la création du collectif des médecins et citoyens contre les traitements dégradants en psychiatrie et il en est aujourd'hui le représentant. Docteur Labrèze, bonjour.
Bonjour.
Nous constatons une augmentation inquiétante des traitements psychiatriques administrés aux enfants et adolescents hyperactifs en France, notamment avec l'augmentation de plus de 114% en 5 ans du nombre de consommateurs de Ritaline chez les moins de 20 ans. Docteur Labrèze, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'hyperactivité ?
Oui, bien sûr. Plus précisément, on parle de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Et la terminologie est importante parce qu'on parle de troubles. En règle générale, en médecine, on parle de maladie. Une maladie, c'est un déséquilibre, une altération de la santé, avec une cause précise qu'on peut déterminer. Et on va mettre en évidence cette altération de la santé avec des examens, une prise de sang, une échographie, un scanner. Et cette altération de la santé, elle se traduit par un écart par rapport à une norme, à quelque chose de normal. Une tension normale, ça va être 12-7. On va parler d'hypertension à partir de 15-9. On a un taux de sucre normal dans le sang. Si ce taux de sucre est trop élevé, au-delà d'une certaine valeur, on va parler de diabète par exemple. Voyez donc, quand on parle de maladie, c'est un écart par rapport à la normale. Mais quand on parle de trouble, on est dans le domaine de la subjectivité. S'agissant de la psychiatrie, on est éminemment dans le domaine de la subjectivité, c'est-à-dire que ce qui est normal ou anormal, ce sont les psychiatres qui le définissent. Et le curseur, ils le mettent là où ils veulent. Pour expliquer ça plus précisément à vos auditeurs, je vais vous donner des exemples, un exemple concret. Pour porter le diagnostic donc d'hyperactivité, on va utiliser des critères diagnostiques. Par exemple, pour le déficit de l'attention, ça va être a souvent du mal en fait à fixer son attention ou va être facilement distrait par des stimuli externes. Mais ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Très souvent, on peut avoir du mal à fixer son attention ou on peut être distrait par des stimuli externes. S'agissant par exemple de l'hyperactivité, ça va être remue souvent ses mains et ses pieds sur sa chaise. Vous voyez, ça ce sont des comportements normaux. Personnellement, je le fais souvent, je ne suis pas hyperactif. S'agissant de l'impulsivité, ça va être a souvent du mal à attendre son tour, par exemple, ou répond souvent aux questions avant qu'elles aient besoin d'être posées. Donc vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que en médecine, en règle générale, on parle de maladie, c'est-à-dire un écart par rapport à une norme, quelque chose de bien défini. En psychiatrie, la normalité est là où la psychiatrie la définit. Et le problème avec cette discipline, c'est qu'elle réduit depuis des années, depuis des décennies, constamment le champ du normal, ce qui fait que des enfants qui ont un comportement strictement normal vont être qualifiés de malades par la psychiatrie, d'hyperactifs par exemple. C'est profondément choquant.
Justement, ces enfants soi-disant hyperactifs, pourquoi leur donne-t-on de la Ritaline ?
Le professeur Breguin, qui est une sommité internationale, qui est un psychiatre, un pharmacologue, il est mondialement connu et reconnu, disait en fait une chose très importante, qu'il faut comprendre que le diagnostic d'hyperactivité a été développé, personnellement je dirais a été inventé, pour justifier la prescription de drogues censée contrôler le comportement des enfants en classe. Tout simplement. Et effectivement, lorsque vous avez des enfants qui ont un comportement qui est considéré comme gênant, mais encore une fois, comportement gênant, ça dépend du seuil de tolérance de l'environnement. Personnellement, j'aime voir les enfants bouger autour de moi, chahuter, s'amuser. Ils sont vivants, ils s'amusent, ce sont des enfants. Eh bien, en milieu scolaire, il faut comprendre que la norme est différente et qu'un enfant qui s'agite, un enfant qui parle, qui bavarde, qui bouge, c'est un enfant gênant. Il va falloir contrôler son comportement. Et c'est très exactement ce que va faire la Ritaline. C'est une drogue, c'est un poison pour l'organisme des enfants. Et effectivement, ça va les calmer, indiscutablement. Ils ne seront plus gênants. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut ? Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui pose un problème majeur. Je pense que la finalité de l'école, du système éducatif, ça n'est pas de contrôler le comportement des enfants, ça n'est pas de les calmer à tout prix, c'est de les aider à s'épanouir et de les instruire.
Alors justement, quels sont les effets secondaires de la Ritaline ?
Alors ils sont nombreux. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Ritaline est un produit stupéfiant. C'est un dérivé amphétaminique. Un dérivé amphétaminique, ce sont des produits dopants, par exemple. Alors ceux de vos auditeurs qui sont sportifs se souviendront peut-être d'un fait divers marquant s'agissant d'un Tour de France. C'était la mort d'un cycliste dans l'ascension du Mont Ventoux. Et pourquoi est-il mort ? Tout simplement parce qu'il prenait un dérivé amphétaminique et qu'il est mort d'arrêt cardiaque. Et on va donner en fait à des enfants un produit stupéfiant qui d'ailleurs est classé dans ce qu'on appelle le tableau 2 de la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes et les drogues. Le tableau 2, c'est le tableau qui contient les produits qui ont le plus fort risque en matière de santé publique. Mais certains vont donner un produit aussi dangereux à des enfants. Voilà. Alors les risques, ce sont des risques de troubles du rythme cardiaque avec des morts. D'ailleurs, officiellement aux États-Unis, entre 1990 et 2000, pourquoi je parle des États-Unis? Parce que c'est un pays où la prescription de Ritaline est malheureusement considérable. Ce sont des millions d'enfants qui sont sur Ritaline. En France, les statistiques sont tout aussi alarmantes puisque ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui sont sur Ritaline. Eh bien, entre 1990 et 2000, aux États-Unis, officiellement, 186 enfants sont décédés d'arrêt cardiaque, c'est-à-dire un effet secondaire de la Ritaline. Et pour le docteur Bogman, qui est un neuropédiatre, membre de l'Académie américaine de neurologie, qui d'ailleurs était auditionné par le Parlement européen, ces chiffres-là ne représentent que 10% des décès réellement imputables à la Ritaline. Donc vous voyez, on parle de centaines de décès imputables à la Ritaline. Je pourrais aussi vous parler de troubles du sommeil, de troubles de la croissance, d'épisodes dépressifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se trouve parfois devant ce que je considère comme quelque chose de profondément choquant, c'est-à-dire que des enfants qui ont été mis sous Ritaline pour traiter un trouble qui n'existe pas, qui est une invention de la psychiatrie, mais qui va créer une dépression, donc ils seront également sous antidépresseurs. Et puis, comme effectivement il peut y avoir de l'agitation, éventuellement ils seront aussi sous neuroleptiques, par exemple. Donc on observe une inflation thérapeutique, parce qu'au départ, encore une fois, on a donné de façon totalement injustifiée une drogue aux effets délétères. Alors délétère, c'est quelque chose qui est capable d'altérer la santé, aux effets délétères extrêmement puissants.
Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les raisons de cette situation en France?
Oui, les raisons de cette situation en France, d'ailleurs, comme sur le plan international, elles sont claires. Vous avez une discipline, la psychiatrie, qui depuis des décennies s'évertue à rétrécir de façon systématique, consciencieuse, méthodique, le champ du normal, pour coller une étiquette de trouble mental sur un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens. Alors pourquoi? Bien, vous savez, quand je pense à la psychiatrie, je pense souvent à cette notion de pompier pyromane. Vous savez, ces gens qui allument des incendies, puis qui après crient au feu et attendent qu'on vienne leur demander de l'aide. Et bien sûr, il y a de plus en plus d'incendies, donc on a de plus en plus besoin d'eux. Bien, quand je pense à la psychiatrie, c'est exactement cette image-là qui me vient à l'esprit. Et d'ailleurs, une statistique, un chiffre édifiant, vous avez dans ce qu'on appelle le DSM, alors le DSM c'est l'ouvrage de référence de la psychiatrie, certains parlent de Bible de la psychiatrie. En 1952, vous aviez 112 troubles mentaux dans la première version. En 1994, dans la quatrième version de cet ouvrage, vous aviez 374 troubles mentaux. Vous voyez donc cette discipline qui réduit le champ du normal sans arrêt, et qui colle cette étiquette de trouble mental sur un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens. Mais à la limite, si elle agissait seule, elle n'aurait peut-être pas le pouvoir nécessaire pour vraiment corrompre la médecine et corrompre tout un ensemble d'acteurs. Mais il y a à côté d'elle, avec elle, parce que les intérêts convergent, l'industrie pharmaceutique en fait, qui elle a des moyens financiers illimités. Et bien évidemment, plus vous augmentez le nombre de troubles mentaux et plus vous préconisez les molécules, entre guillemets, les traitements censé traiter ces troubles mentaux, et plus vous avez pour l'industrie pharmaceutique des milliards de dollars de bénéfices. Donc vous voyez, vous avez les intérêts de ce dipôle, de ce groupe-là, psychiatrie, pharmacie qui convergent, mais ce qui est plus inquiétant encore, c'est que ça se fait avec, j'allais dire, le regard bienveillant des autorités, du pouvoir politique. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, comme ça, ils peuvent se décharger de leur part de responsabilité. Parce que si nos enfants parfois vont mal, si les adultes vont mal, c'est plus facile de considérer que c'est leur cerveau qui dysfonctionne, ce qui peut expliquer leur anxiété, leur dépression, etc., que pour les politiques de se remettre en cause en se disant « mais qu'est-ce qu'on échoue à faire ? Pourquoi on échoue à créer un système, une société ou un environnement scolaire dans lequel les adultes et les enfants puissent s'épanouir et aller bien ?» Donc on blâme le cerveau des enfants, comme le disait très bien le professeur Breguin, par exemple, on les drogue, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Les éducateurs n'ont pas à se remettre en cause, pas plus que les politiques d'ailleurs.
Donc vous m'avez parlé d'hyperactivité, mais aujourd'hui on parle de plus en plus de dépression chez les jeunes, et notamment la Haute Autorité de Santé vient de publier des recommandations pour dépister la dépression le plus précocement possible les enfants et adolescents. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, je vais résumer mon point de vue par ces termes-là, c'est scandaleux. C'est scandaleux pourquoi? Parce qu'encore une fois, et là on voit vraiment le rôle majeur de la psychiatrie, les enfants peuvent avoir des difficultés, d'accord? Ce ne sont pas des objets, ils vivent dans un environnement social, familial, scolaire, qui peut les perturber. Ce n'est pas le fait de diagnostiquer ou éventuellement de voir qu'un enfant a des difficultés pour lui proposer notre aide. C'est que derrière ce diagnostic, ce qui se cache, c'est le fait qu'ensuite on va traiter ces enfants et dans une immense majorité de cas, on va les mettre sous traitement antidépresseur. Et ce que vos auditeurs doivent savoir, c'est qu'en France, le corps médical prescrit des antidépresseurs aux enfants, alors que par exemple en Grande-Bretagne, ce qu'on appelle le NICE, N-I-C-E, c'est-à-dire l'Institut National pour l'Excellence Clinique, contre-indique la prescription de ces produits à des enfants à cause de ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque défavorable. Ce qui doit guider la pratique d'un médecin, c'est primum non nocere, c'est ce que disait Hippocrate, le père de la médecine. D'abord ne pas nuire. Or, quand on parle de dépister la dépression chez l'enfant, le corollaire immédiat, il ne faut pas se leurrer, c'est derrière l'objectif de traiter et de traiter avec de la chimie. Et encore une fois, en donnant des drogues qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé de l'enfant. Donc s'il vous plaît, retrouvons simplement du bon sens. Des enfants ne sont pas dépressifs. Ils peuvent aller mal, parce que leur environnement social va mal, parce que leur environnement familial va mal. Aidons-les. Aidons-les simplement par de l'écoute, en essayant de régler autour d'eux les facteurs qui devraient l'être. Et évitons de lancer un programme tel que celui-ci. J'ai l'impression que la Haute Autorité de Santé n'a rien compris. Il y a quelques années, on parlait de dépister les troubles des conduites chez les enfants et les adolescents. Il y avait eu une levée de boucliers totalement légitime et j'ai l'impression qu'on nous resserre exactement la même chose. Ça suffit. Quand un enfant va mal, aidons-le simplement avec du bon sens, de la bienveillance et réglons les facteurs autour de lui qui le perturbent et nous aurons réglé les difficultés de l'enfant.
Docteur Labrèze, quelles sont les solutions qu'on peut proposer aux parents ?
Le point sur lequel je voudrais revenir, quand on parle de solutions, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce que vos auditeurs doivent comprendre, c'est que dans l'immense majorité des cas, et je pèse soigneusement mes mots, l'immense majorité des cas, les enfants qui sont étiquetés hyperactifs sont des enfants normaux. Ils n'ont pas de problème. Ce sont ceux qui les diagnostiquent qui ont un problème. Ce problème, cette volonté de coller des étiquettes sans cesse, et de prescrire des drogues qui vont altérer la santé de l'enfant. Mais l'immense majorité de ces enfants n'a pas de problème, entendez-moi bien. Pour ceux effectivement qui ont un problème, c'est-à-dire qu'on voit parfois que l'enfant manifestement a des difficultés, eh bien agissons de façon intelligente, en médecin responsable, cohérent. Réglons les facteurs environnementaux qui sont susceptibles de perturber l'enfant. Je les ai énumérés tout à l'heure, familiaux, scolaires, etc. Et puis abordons le problème sous un angle médical, mais de façon cohérente. Vous avez tout un ensemble de facteurs qui sont susceptibles de perturber la santé de l'enfant, en conséquence son comportement. Je vais vous en citer simplement quelques-uns, mais si votre enfant consomme des sodas en permanence, des colorants alimentaires, des conservateurs, des phosphates, ce sont des substances qu'on ajoute dans l'alimentation. S'il est carencé en magnésium, en fer, en vitamine du groupe B, s'il a une parasitose intestinale, il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent altérer la santé de l'enfant et son comportement. Mais dans ce cas-là, une démarche médicale rationnelle, ça n'est pas de donner une drogue qui va assommer l'enfant et atténuer ce symptôme, ce trouble du comportement qui devrait au contraire attirer l'attention. Mais encore une fois, c'est de régler la cause. Quelque chose que vos auditeurs vont facilement comprendre, si vous venez me voir en tant que médecin parce que vous avez 40 de température, est-ce que vous attendez de moi que je vous donne simplement des antipyrétiques pour faire chuter votre fièvre et ramener votre température à 37? Ou est-ce que vous attendez de moi que je traite la cause qui est responsable de cette température? Par exemple, l'infection du rein qui, si elle n'est pas traitée, peut vous tuer dans les 2 ou 3 jours qui vont suivre. Soyons cohérents. Encore une fois, la grande majorité de ces enfants n'a rien. On a porté un diagnostic qui est une pure invention de la psychiatrie. Et pour ceux qui ont réellement quelque chose, soyons compétents, amenez-les voir un médecin qui va trouver la cause biologique, physiologique, sous-jacente et qui va traiter la cause. Pas assommer votre enfant avec une drogue qui va profondément nuire à sa santé.
Docteur Labrèze, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour toute information sur les abus psychiatriques, contactez la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visitez leur site web www.ccdh.fr.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma Il est en compagnie de Martine. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.